Face à l'actu, Abdelkrim Branine.
Face à l'actu, je reçois Nathalie Artaud, porte-parole de Lutte Ouvrière. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Beurre FM. On va passer avec vous en revue l'actu politique et sociale de cette semaine, en commençant par cette réunion tripartite demain entre la direction, les syndicats de PSA et le gouvernement. Une réunion qui servira à rediscuter, je mets ça entre guillemets, l'ampleur des licenciements du constructeur automobile. Est-ce que ça peut être la réunion de la dernière chance ou, selon vous, tout est joué d'avance?
Vous savez, la direction de PSA dit et redit qu'elle a décidé son plan social, 8000 suppressions d'emplois et la fermeture d'Aulnay-sous-Bois, qu'elle en a décidé et qu'il ne s'agissait pas de discuter donc de cela. Donc c'est une drôle de négociation, où on voit que la direction finalement ne veut pas discuter, ne veut pas entendre les exigences des travailleurs et où on voit également un gouvernement qui ne veut pas faire pression sur la direction de PSA, qui ne veut rien lui imposer, qui ne veut surtout pas lui
décrire. Est-ce qu'il en a le pouvoir ? Il en a le pouvoir ?
Écoutez, le gouvernement s'est engagé à garantir pour 5 à 7 milliards la banque finance de PSA. C'est-à-dire que PSA, le groupe PSA est allé frapper à la porte de l'État en demandant une aide de l'État. Quand même, ce n'est pas une bagatelle. On parle de 5 à 7 milliards. Le gouvernement lui l'a accordé, sans contrepartie, sans faire pression justement sur la direction de PSA, ne serait-ce que pour suspendre ce plan social, ne serait-ce que le temps qu'il y ait réellement des discussions, qu'ils entendent les salariés. Eh bien, même pas cela. Le gouvernement n'a même pas eu ce courage-là. Écoutez, il aurait pu dire, vous avez besoin de l'aide de l'État. Eh bien, nous vous demandons, nous vous imposons de bloquer le plan social, de façon à ce qu'au moins les syndicats négocient, mais sans le couteau sous la gorge. Eh bien, vous voyez, même ça, le gouvernement ne l'a pas fait. Alors, cette réunion tripartite, moi, je crois qu'il n'y a finalement pas grand-chose à en attendre et que... le sort en réalité à la fois de l'usine d'Aulnay et de ses 8000 emplois dépendra surtout du rapport de force que les travailleurs de Peugeot réussiront à imposer.
Est-ce que c'est ce qui vous irrite le plus? Vous venez de parler de cette aide. Ça fait 10 ans qu'il y a un plan d'aide aux constructeurs automobiles français. C'est ça qui vous irrite le plus dans cette affaire?
C'est complètement fou. C'est ce qu'a fait le gouvernement de droite. C'est ce que continue de faire le gouvernement socialiste aujourd'hui. C'est-à-dire d'arroser le patronat avec des milliards, de la même façon qu'ils ont arrosé les banquiers, sans leur demander quoi que ce soit. Et on voit ce même grand patronat qui effectivement empoche... qui empoche les aides, les subventions, les exonérations de cotisations sociales, et on les voit faire ce qu'ils veulent, et on les voit surtout licencier. En même temps que la courbe des subventions monte, la courbe du chômage monte. Alors écoutez, moi ce que je vois, c'est un gouvernement qui accorde encore une fois des milliards aux plus grands licencieurs du pays. Et moi je trouve ça extrêmement choquant.
Alors, chômage, justement, les chiffres sont tombés aujourd'hui. On en discutait juste avant le lancement de cette interview. Donc, un chômage qui augmente, sans surprise, finalement, Nathalie Artaud.
C'est sûr que ce n'est pas étonnant. Cette semaine, on a parlé des licenciements, de la fermeture de l'usine d'Electrolux dans les Ardennes, du groupe Koval qui a déposé le bilan. Il y a encore une entreprise là de papier dans le Nord-Pas-de-Calais dont les patrons annoncent la vente. Et puis la semaine dernière, il y a eu Technicolor, Petroplus, Alcatel-Lucent et tous les autres plans sociaux qui courent. Je pense à celui de Prestalis. Donc tout ça, effectivement, c'est une avalanche de plans de licenciement. C'est sans compter aussi tous les intérimaires qui sont renvoyés, tous les CDD auxquels on met fin.
Les emplois précaires.
C'est sans compter toutes les petites entreprises, tous les petits commerçants, les petits artisans qui sont frappés effectivement par cette crise parce qu'en fait, ils se retrouvent avec une clientèle qui n'a plus le sou. Je pense aux coiffeurs, je pense aux petits commerçants qui... Voilà, ils voient leur chiffre d'affaires s'effondrer, tout simplement parce que dans les quartiers populaires, c'est le chômage, on vit avec le RSA de plus en plus, et donc l'économie est complètement bloquée. Donc effectivement, là on voit une catastrophe qui est en cours, sans que le gouvernement fasse quoi que ce soit. Le gouvernement laisse faire, et il laisse faire, moi ce qui me frappe, c'est qu'il laisse faire justement tous ces licenciements et toutes ces fermetures. Et il ne lui vient pas à l'esprit qu'il pourrait avoir une politique contraignante de dire stop, ça suffit, c'est, vous êtes des grands groupes, vous brassez des millions, si ce n'est des milliards, c'est de votre responsabilité de conserver les emplois. On vous interdit de fermer, on vous interdit de licencier. Voilà ce que le gouvernement pourrait dire aujourd'hui, pourrait imposer au patronat.
Alors, cette responsabilité du patronat, on va en parler. Les syndicats ont récemment manifesté dans plusieurs villes de France. C'était la première journée de mobilisation depuis l'accès au pouvoir de François Hollande. La revendication principale de cette journée, c'était l'interdiction des licenciements boursiers. C'était l'une des promesses de François Hollande. Est-ce qu'il peut encore, d'après vous, tenir cette promesse ?
Alors, vous savez, il n'avait jamais réellement promis ça. Hein. Ça a toujours
c'était
été...
assez vague, oui. C'est vrai
oui,
que
c'est
vague.
Ça. C'est... Vous savez, les engagements vis-à-vis des travailleurs sont toujours très vagues, toujours très flous. Hein, c'est toujours les engagements vis-à-vis du patronat, eux, sont très précis en général. Ils sont chiffrés et c'est en espèces sonnantes et trébuchantes. Vous voyez, c'est ça la différence justement d'un gouvernement, eh bien, qui est au service en fait du patronat et pas au service des travailleurs. Donc c'était déjà pas une réelle, un réel engagement. Effectivement, il y a eu cette manifestation. Moi, je m'en réjouis de voir que, eh bien, il y a des militants, des syndicalistes, des travailleurs du rang qui sont conscients qu'ils ont à se battre, et qu'ils ont face à eux finalement un gouvernement qui certes est socialiste, mais qui n'est pas un ami, et qu'il va falloir effectivement forcer et contraindre à prendre des mesures d'urgence comme cette interdiction des licenciements. Et moi, juste un mot là-dessus, moi je pense qu'il faut interdire tous les licenciements. Voilà. Dans cette période de crise, il faut qu'on ferme le robinet de fabrication de chômeurs, si vous voulez. De la même façon qu'en hiver, on interdit les expulsions locatives. Dans cette période de crise, il faut interdire les licenciements. Et qu'on n'aille pas rentrer dans cette histoire de boursier ou pas boursier. Écoutez, c'est des grands groupes, ils ont plein de filiales, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur comptabilité, ils peuvent mettre dans le rouge n'importe quelle usine s'ils le veulent en quelques mois. Donc tout ça, il ne faut même pas rentrer dans ce détail-là et surtout pas leur faire confiance. Quand ils disent qu'ils sont en difficulté, PSA nous explique qu'ils sont en difficulté, mais écoutez, là encore, c'est un groupe qui a une montagne de cash, qui a des réserves, et y compris quand bien même ils auraient des difficultés, ben nous disons qu'on aille prendre chez les actionnaires les fortunes qui existent. Tous ceux qui sont enrichis, justement, quand les affaires allaient bien, quand il y avait la croissance économique, tous ceux qui sont enrichis, aujourd'hui, cet argent-là, il doit servir. Il doit servir à sauvegarder les emplois et à sauvegarder les salaires et les retraites.
Alors, promesse toujours, autre promesse de François Hollande, elle est un petit peu plus ferme, celle-là. C'est celle concernant le droit de vote des étrangers, une promesse qui semble quasiment enterrée. Est-ce que ce renoncement est justifié, selon vous, Nathalie Arthaud ?
Non. C'est un reniement honteux, c'est encore une honte, c'est de la lâcheté. Voilà. Et ça, les socialistes, ils sont experts en lâcheté. Vraiment experts. Hein, écoutez, on les a vus être à plat ventre devant les pigeons, ceux qui s'auto-proclamaient les pigeons. Il est à plat ventre face au patronat. Voilà. Mais cette lâcheté, il l'a aussi sur des questions sociétales de ce type-là. Moi, je trouve que c'est honteux. Vous vous rendez compte quand même que c'est une promesse qui date de Mitterrand, 1981. Jospin l'a refait en 97 et en 2012, Hollande l'avait faite. Et aujourd'hui, il nous explique que ça va être difficile, que ça va pas être possible, etc. Mais qu'il le propose au vote, Écoutez, on pourrait se dire ah bah ils sont de bonne foi si on les voyait se battre. Si on les voyait se démener, si on les voyait essayer de convaincre, essayer de s'appuyer sur tous ceux dans la population qui sont favorables à ce droit de vote, et il y en a quand même. Il y en a qui se disent, mais tout de même, c'est la moindre des choses d'accorder le droit de vote à tous ces travailleurs qui construisent le pays, qui travaillent dur, qui payent des impôts, qui payent toutes les taxes. C'est la moindre des choses. On est quand même nombreux à le penser, tout ça. Bah non, on voit un gouvernement qui n'ose pas, il a peur de la droite. Vous savez, moi, ça me rappelle un débat qu'il y a eu au Parlement quand il y a eu cette loi sur le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Eh bien, écoutez, Simone Veil, elle était montée au créneau. Elle était montée au combat et il lui en a fallu du courage contre sa famille politique. Elle s'était fait insulter, traiter de tous les noms. Eh bien, elle a eu ce courage-là. Eh bien, vous voyez, même ça, ce combat-là, les socialistes au pouvoir, ils ne le mènent pas. Moi, je trouve que c'est une honte. Et je pense qu'effectivement, ne pas accorder le droit de vote aux étrangers, à toutes les élections d'ailleurs, c'est un déni de droit.
Alors, on va faire le lien avec un point positif cette semaine pour le gouvernement, Manuel Valls, qui a annoncé cette semaine l'assouplissement des conditions de naturalisation. Vous prenez acte ou alors ça reste insuffisant pour vous? Vous avez pris connaissance, bien entendu, des nouvelles conditions, Nathalie Arthaud?
Je prends acte. J'espère qu'ils ne vont quand même pas l'utiliser pour justement justifier leur recul.
Oui, c'était soit l'un, soit l'autre, peut-être.
Hein, j'espère qu'ils ne vont pas l'utiliser pour justifier leur recul, leur débandade sur le droit de vote.
Hein, donc ces étrangers pourront devenir français naturalisés pour voter.
Voilà, vous savez, c'est le discours de la droite, ça.
Oui.
Hein, on n'a pas besoin de leur donner le droit de vote, ils n'ont qu'à devenir français. Ça, c'est le discours de la droite. Alors j'espère qu'on ne va pas le retrouver, mais encore que il faut s'attendre à tout, avec Valls et puis les autres. Mais écoutez, moi, je pense que si ça rend plus facile l'accession à la nationalité française, tant mieux. Hein. Je ne suis pas sûre quand même que ça ne reste pas un parcours du combattant. Hein, parce que c'est un parcours du combattant, malgré tout. Quand vous regardez la moyenne de résidence en France, hein, pour ceux qui accèdent à la nationalité, c'est 16 ans. 16 ans. En fait, ils mettent plusieurs années pour effectivement accéder à la nationalité. Moi, je crois que surtout, c'est un retour à la normale. Et qu'effectivement, on revient sur des obstacles qu'avait élevé Guéant et qui étaient scandaleux. Quand vous pensez qu'il fallait un CDI pour accéder à la nationalité française...
quasiment alors, mission impossible.
Ben oui. Pour combien de millions de Français le CDI n'existe pas? Au bout du compte, ça revenait au patron de décider de la nationalité des uns ou des autres, vous vous rendez compte? Donc ça, c'était une injustice évidente. Bon, tant mieux qu'elle soit supprimée.
Dernier point de cette interview, ce sera le sujet du forum débat de ce soir dans quelques instants. La reconnaissance du 17 octobre 61 par notre président, Nathalie Arthaud.
Écoutez, moi, j'ai lu effectivement son communiqué. J'ai trouvé qu'il avait fait le minimum syndical. Voilà, le minimum syndical. Surtout, il ne pointe pas la responsabilité de la police. Il ne pointe pas la responsabilité du préfet de police, Papon, et la responsabilité du pouvoir français, des plus hautes autorités, de Gaulle, de tout l'État. De tout l'État.
Ça reste la question importante pour vous. Il faut désigner des coupables.
Mais oui, écoutez, bien sûr. Et puis, bon, ça a été un massacre, effectivement. Et un massacre le 17 octobre, mais en réalité, toutes les semaines qui ont précédé, c'était plusieurs Algériens qu'on retrouvait morts sur Paris. Donc, effectivement, c'est un massacre qu'il faut dénoncer. Moi, j'espère aussi que les archives vont être réouvertes, complètement, accessibles, qu'on puisse faire toute la lumière sur toutes les responsabilités. Et puis, écoutez, si les socialistes veulent tout dire de cette guerre, eh ben, je crois qu'il faudra aussi qu'ils reviennent sur leurs propres responsabilités dans la guerre d'Algérie. Parce qu'ils en ont eu une à la fois dans le déclenchement, dans la poursuite de la guerre. Et là encore, on peut parler de la lâcheté des socialistes. Quand Guy Mollet s'est fait élire sur l'arrêt de cette guerre et puis que finalement, il l'a poursuivi, je crois qu'ils ont effectivement beaucoup de choses à reconnaître, y compris dans leurs propres responsabilités.
Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière. Merci à vous.
Je vous remercie.
On vous dit à très bientôt sur Beurre FM.